vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va échanger autour d'un sujet qui concerne directement les aidants, mais qui est encore assez méconnu du grand public, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La VAE, c'est un dispositif qui permet de faire reconnaître ses compétences, ses expériences, afin d'obtenir certains diplômes ou certifications sans passer par la case formation. Depuis décembre 2022 et la nouvelle loi marché du travail, le parcours VAE est en déploiement progressif avec pour objectif de faciliter le processus et de le rendre plus accessible. Dans ce cadre et dans celui d'une stratégie de mobilisation et de soutien, la VAE a été étendue aux aidants. Une manière de reconnaître leur rôle et leurs droits, mais aussi et surtout de revaloriser leur engagement. Car aujourd'hui, plus de la moitié des aidants en France, soit plus de 5 millions de personnes, soutiennent de manière quotidienne leurs proches. Certains travaillent en même temps, d'autres se voient dans l'impossibilité de continuer leur activité. Mais alors comment cette validation des acquis de l'expérience étendue aux aidants a-t-elle été pensée? Et quel type de compétences prend-elle en compte? Quels seraient les intérêts de cette VAE pour les aidants? Quels sont les premiers résultats de cette étendue? Et quelles actions restent encore à mener? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir deux expertes de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Hélène Delmotte, journaliste et experte médico-sociale. Bonjour.
Bonjour.
Et Lorraine Gilly, responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association, qui nous en dira plus sur les revendications de France Alzheimer sur ce sujet. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Alors pour commencer, le parcours de VAE a donc été étendu aux aidants, le texte a même donné lieu à une expérimentation en juin 2023. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment est-ce qu'elle a été pensée, cette étendue du texte et cette expérimentation, et qu'est-ce que cela a donné?
Alors peut-être est-il important de rappeler en introduction que donc dans la deuxième stratégie de mobilisation et de soutien, donc Agir pour les aidants pour 2023-2027, il y a une seule disposition qui concerne ce sujet et c'est effectivement la mention de la loi que vous venez de citer, la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Et donc c'est une loi de septembre 2022. Alors que prévoit ce texte? Eh bien, il prévoit qu'en 2023, une expérimentation a été menée pour valoriser les compétences des proches aidants afin de les orienter vers les métiers de l'aide à la dépendance. Autrement dit, on va transformer les savoir-faire appris en aidant un proche dépendant en un diplôme en vue d'une reconversion professionnelle. Alors bien évidemment, la raison de ce choix est évidente, c'est la pénurie de personnel qualifié dans les services de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Je rappelle qu'en 2022, une étude du ministère du Travail, donc de la DARES, estime à 600 000 le nombre de postes à pourvoir d'ici 2030. Donc on se rend bien compte des difficultés de recrutement dans ce secteur, d'où cette proposition d'expérimentation. Mais il faut quand même rappeler, avant que j'en vienne au bilan, que la VAE n'a jamais vraiment trouvé son public. Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'amélioration dans différentes lois, mais en moyenne, il y a 10 000 parcours de VAE validation, donc des acquis de l'expérience, qui sont entamés par an. 60% sont abandonnés avant leur terme par les candidats. Et déjà, 10 000, c'était peu, mais l'objectif était quand même d'atteindre les 100 000 parcours annuels. Donc, on voit que nous en sommes loin. Alors, revenons à l'expérimentation qui a été prévue dans la loi de 2022. Donc, il y a un financement de 15 millions d'euros qui a été débloqué. Il y a eu un déploiement dans 3 régions, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et en Normandie, entre juin 2022 et juin 2023, pour un bilan plus que mitigé, puisque 70% des 2000 participants ont accédé à la certification, donc vous me direz c'est pas mal, mais zéro proche aidant. Donc on peut s'interroger sur quand même ce qui ressemble à un échec, et souligner d'emblée que malheureusement, ni les structures employeuses d'aidants, ni les départements, ni les associations, je pense bien évidemment à France Alzheimer et maladies apparentées, n'ont été associés aux travaux. Et un autre élément qu'il est important également de mentionner, c'est que les métiers de l'aide à domicile attirent peu, avec des grilles de salaire qui sont particulièrement basses et des conditions de travail particulièrement difficiles. Mais c'est un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Un vaste sujet en effet. Donc il y a des limites évidentes au dispositif qui a été imaginé. Une autre problématique que cela soulève, c'est la catégorie des métiers envisagés pour les aidants et donc l'appréciation de leurs compétences. voilà, être un aidant apporte ou peut apporter des compétences en termes de services et de soins à la personne, mais pas que. Ce n'est pas forcément la catégorie de métier qui va les intéresser. Et surtout, bah, ce serait réduire le champ des compétences acquises par les aidants. Il y a bien sûr tout un panel de compétences en termes de soins, de logistique, etc. Mais il y a aussi d'autres types de compétences qu'on appelle d'ailleurs les soft skills, qu'on peut également valoriser. Quels sont ces soft skills ? Est-ce que vous pourriez nous en parler, Hélène ? Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est fait ou non pour les intégrer justement au sein d'un parcours VAE ?
Alors effectivement, il est important de parler des soft skills, les compétences douces, plutôt que d'aborder les compétences professionnelles. Et c'est peut-être précisément des blocs de compétences qui ont été donc acquis aux côtés de la personne aidée qu'il importe de valoriser. Puisqu'on le sait, un aidant va développer des savoir-faire qui vont être liés à la gestion du stress, à la prise de décision qui bien souvent devront se faire dans l'urgence, à l'empathie, à la réactivité, à la complexité, ne serait-ce que si on se réfère à notre système administratif. Donc toute cette agilité, elle mérite d'être promue et valorisée.
Alors on parle aussi de savoir expérientiel.
Alors effectivement, ce sont les connaissances qui sont acquises à travers donc l'interaction qu'on peut entretenir avec son environnement. Et ces savoirs expérientiels donc se distinguent de ce qu'on nomme les savoirs académiques qui sont plus classiques, les savoirs académiques, théoriques, pratiques, acquis donc dans le cadre d'une formation initiale ou continue. Et aujourd'hui, la VAE, elle permet de certifier des blocs de compétences plutôt que des diplômes complets. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un site qui vient d'être mis en place, donc qui est vae.gouv.fr, et France VAE, donc ça devient l'espace unique pour se renseigner, pour être accompagné, pour effectuer ses démarches dans 6 secteurs prioritaires. Et parmi ces 6 secteurs prioritaires, on compte bien heureusement la santé, le sanitaire et le social. On a aussi la distribution, la métallurgie et le sport, mais ça nous concerne un petit peu moins. Et donc il y a 200 certifications qui sont aujourd'hui possibles et accessibles avec la présence d'un architecte accompagnateur de parcours. Pour faciliter donc cet accès à la VAE pour tous, France VAE rassemble donc le financement qui est nécessaire auprès donc des différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et puis sur ce sujet des soft skills, j'aimerais également mentionner donc AG2R, La Mondiale, le Cercle Vulnérabilité et Société, dont fait partie l'Association France Alzheimer, et l'Association française des aidants ont élaboré une charte aidance et compétences afin précisément d'aider les entreprises à accompagner leurs collaborateurs dans la reconnaissance de ces soft skills qui ont été acquises dans le cadre donc de soutien à une proche qui est en situation de dépendance.
D'ailleurs, on a toute une série d'émissions, de vos questions, nos réponses. On a toute une série d'épisodes qui est consacrée aux aidants en situation professionnelle ou en recherche d'emploi. Et on aborde ces questions-là, donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à faire un tour sur France Alzheimer, la radio. Alors, Lorraine Gilly, je le rappelle, vous êtes responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. L'association joue un grand rôle de sensibilisation, mais aussi de soutien et de mobilisation, aussi bien pour les malades que pour leurs proches. Quelles sont vos remarques et revendications sur l'actuel dispositif proposé pour l'étendue aux aidants de cette VAE ?
Alors, concernant notre mobilisation de manière générale sur le sujet des aidants, j'aimerais commencer par rappeler notre mobilisation depuis 2020 dans le cadre des différentes stratégies nationales Agir pour les aidants et le besoin de transversalité que nous appelons de nos voeux avec cette future stratégie maladie neurodégénérative 2024-2028 qui tarde à être officialisée mais que nous espérons fortement pour cette année. Donc, de manière générale également, nous avons publié en 2016 un livre blanc consacré au sujet des aidants en activité professionnelle, un livre blanc que nous avons aussi mis à jour en 2018 et transmis à l'ensemble des parlementaires et élus de la République pour pouvoir alerter sur la situation que vivent les aidants de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées et pouvoir porter haut et fort nos revendications sur le sujet. Dans ce livre blanc, nous demandons notamment la reconnaissance des compétences acquises par les aidants dans le cadre extra-professionnel. Et donc, concernant la VAE, France Alzheimer soutient bien évidemment les revendications portées par le CIAF, le collectif interassociatif des aidants familiaux, et par le collectif Je t'aide, qui alerte notamment sur certains sujets. Certains sont liés à ce que vient de vous présenter Hélène. Comment la nouvelle stratégie aidant va-t-elle s'emparer de cette mesure ? Quid de l'échec de l'expérimentation de 2023, comment rebondir après ça? Il est nécessaire aussi de ne pas enfermer les aidants dans un choix restreint d'orientation professionnelle. Comment relever ce défi? Et comment, bien sûr, mobiliser l'ensemble des acteurs impliqués? De manière générale, il est nécessaire d'étudier tous ensemble et de dépasser les raisons du non-recours à de nombreux dispositifs mis en place pour soutenir les aidants, notamment les aidants en activité professionnelle ou en recherche d'emploi. Il faut pouvoir étudier ces raisons pour pouvoir lutter contre et permettre à davantage d'aidants de pouvoir avoir accès à des dispositifs spécifiques répondant véritablement à leurs besoins sur l'ensemble du territoire. Il nous faut, je crois aussi, globalement, arrêter de voir les aidants comme des variables d'ajustement de nos politiques publiques actuelles. Sans les aidants aujourd'hui, c'est tout un système qui s'effondrerait et nous devons véritablement les accompagner, prendre conscience de ce qu'ils nous apportent au quotidien et pas continuer à les percevoir justement comme ces variables d'ajustement, mais plutôt les défendre et œuvrer pour qu'ils puissent mener cette mission beaucoup plus sereinement auprès de leurs proches malades. Et c'est ce que nous tentons de faire au quotidien chez France Alzheimer et Maladies Apparentées.
Merci, merci beaucoup pour tout ce travail que vous menez avec l'association France Alzheimer et Maladies Apparentées. Merci pour les aidants, merci pour leurs proches. Merci pour votre temps aujourd'hui, Hélène Delmotte et Lorraine Gilly.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Et alors, petite info pour nos auditeurs, on vous retrouve toutes les deux pour d'autres épisodes consacrés au droit à la retraite pour les aidants, mais aussi pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Je vous invite donc tous à faire un tour du côté de la radio pour découvrir nos autres épisodes. En attendant de répondre à vos prochaines questions, passez une très belle journée et prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.